Je présente brièvement les trois autres volumes. Ils sont tous parus. Chacun a eu un directeur différent, un coordinateur différent. Le premier volume portait plutôt sur les bibliothèques du Moyen-Âge à 1530. Ensuite, le second volume a couvert donc de la Renaissance à la Révolution française, avant la Révolution française, 1789. Le troisième volume, qui est important pour ce qu'est cette bibliothèque.
Il y a aussi un article sur cette maison.
Sur cette maison elle-même. Le troisième volume donc couvrait de la Révolution à 1914, grande période aussi avec de multiples changements. Et donc ce dernier volume commence en 1914 et s'est arrêté au plus près de nos jours récents, autour de 1990, en sachant bien que ce n'était pas forcément la meilleure période pour s'arrêter, puisqu'il y a en ce moment des grands événements, pour ne pas dire des grands chantiers, et des tas de changements en cours dans les bibliothèques dont on ne sait pas très bien comment ils vont évoluer pour de multiples raisons. Donc, un certain nombre d'analyses, bien sûr, concernant cette fin de siècle, plus elles sont proches, plus le temps dira ce qu'il en a été des tentatives d'analyse faites par les chercheurs. C'est un volume qui rassemble à peu près 80 contributions, que j'ai essayé à la fois d'avoir des analyses un peu transversales par grands secteurs de bibliothèques, mais aussi un certain nombre de monographies, de points plus particuliers sur des bibliothèques particulières ou sur des personnages importants de l'histoire des bibliothèques au XXe siècle. Et en même temps, si vous voulez, des articles transversaux qui auraient traversé tout le siècle étaient assez difficiles, parce qu'il faut bien voir que pour les bibliothèques comme pour le reste, le XXe siècle a été un siècle d'évolution tellement rapide que c'était difficile de prendre un thème et de le traiter complètement sur le siècle. C'est pourquoi j'ai opté, même s'il y a des analyses transversales ainsi, j'ai opté pour des ruptures chronologiques en séparant assez distinctement trois périodes. La première période va de 1914 à 1945, en fait il faudrait dire 39, puisque la guerre qui fait l'objet évidemment d'un article, puisque l'histoire des bibliothèques comme toutes les autres a éminemment souffert de la Seconde Guerre mondiale, enfin, disons que c'est un point d'arrêt évidemment complètement à part. La seconde période va de 1945 au milieu des années 70, qui à nouveau pour les bibliothèques vont être un moment de rupture assez important. Et puis la dernière période, donc qui est évidemment courte en temps, mais qui est bien particulière, même si elle n'est pas identique dans chacun des secteurs des bibliothèques, essaye d'analyser les mutations les plus contemporaines. D'abord, il faut souligner que peut-être c'est un témoin du retard qu'ont eu longtemps les bibliothèques françaises. La recherche elle-même n'est pas encore très riche sur le plan de l'histoire des bibliothèques. Chacun des volumes, j'espère, sera une contribution à cette recherche, mais il est bien évident que quand on commence une histoire pareille, on dispose, contrairement à d'autres secteurs, on dispose vraiment d'assez peu de premières monographies, de premières analyses de politique culturelle d'une ville ou d'un secteur particulier qui permettrait de constituer vraiment une histoire à partir d'un certain nombre de bases déjà faites. Donc il y avait un certain nombre de travaux dans ce livre, l'histoire des discours sur la lecture. Il y avait une monographie intéressante et toujours bonne d'un Anglais. Vous voyez, comme par hasard, enfin pas comme par hasard, mais un peu, les premières recherches sur l'histoire des bibliothèques au XXe siècle en France, les bibliothèques françaises, a été le fait d'un chercheur anglais. En soi, vous voyez, ces espèces de formes déjà d'insuffisance ou de manque d'intérêt pour un terrain de recherche sont bien d'une certaine manière un signe d'un certain retard des bibliothèques françaises. Alors, je crois que ce retard, il pourrait qualifier l'histoire des bibliothèques pendant presque tout le siècle, en mettant à part effectivement une période qui est un peu différente suivant les types de bibliothèques, entre les bibliothèques municipales, les bibliothèques scolaires, les bibliothèques universitaires, ou la documentation, dont on va parler un peu, parce que c'est vraiment une émergence du XXe siècle. Mais disons que la période peut-être qui restera peut-être la plus importante sur le siècle, il faudra le voir, ça, c'est bien autour des 15 dernières années qu'un certain réveil s'est fait jour, notamment du côté des bibliothèques publiques, parce que du côté des bibliothèques universitaires, c'est beaucoup plus récent encore. Alors, ceci dit, il faut toujours tout nuancer, mais partons de 1914, on peut, sans peiner personne, estimer que la période de l'entre-deux-guerres, le retard français, non seulement va rester important, mais va s'accroître. Si vous voulez un bon repère, c'est de savoir, par exemple, que la Grande-Bretagne a eu une loi sur les bibliothèques publiques, une loi autorisant les municipalités à lever un impôt pour construire et entretenir une bibliothèque publique, donc déjà au sens de bibliothèque publique, plus au sens de bibliothèque populaire ou d'autres sens qui étaient ceux du 19e, en 1850. La première loi, c'est 1850, et ce qui pourrait être considéré comme une forme d'équivalent, parce qu'il n'y a pas de loi sur les bibliothèques vraiment en France, il n'y a pas de loi déterminant les droits et les devoirs des uns ou des autres, mais ce qui pourrait être l'équivalent, c'est-à-dire, même si c'est son contraire, une volonté politique affichée de prendre en charge le développement des bibliothèques de tout type en France, ce serait 1945, période à laquelle je viendrai tout à l'heure, qui voit la première naissance d'une direction des bibliothèques et de la lecture publique au ministère de l'Éducation nationale ou de l'Instruction publique.
Déjà,
c'était encore déjà,
nationale.
Oui, c'était l'Éducation nationale en 1945, à l'époque. Donc, si vous voulez, en gros, que l'on prenne le problème sous l'angle administratif ou sous l'angle des services, c'est vrai que, à mon avis, jusque largement à la fin des années 60, on peut à peu près considérer qu'il y a un siècle de retard. Je prendrai un autre exemple, les bibliothèques pour enfants. Les bibliothèques pour enfants sont apparues à la fin du 19e siècle aux États-Unis, dans les bibliothèques publiques, au début de ce siècle en Grande-Bretagne, avec là aussi, bien sûr, comme partout, des signes de l'époque. Il y avait les boys' homes et les girls' homes. Il ne s'agissait pas de mélanger ce qui ne devait pas être mélangé. Mais enfin, cette émergence du début du siècle a été assez rapide et massivement suivie. En France, bien, l'une des choses positives, par exemple, de cet entre-deux-guerres, je ne vous ai pas encore résumé, mais si ce n'est par le retard, qui dit retard dit bien sûr tentative. Ceci dit, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de faire bouger les choses. Et par exemple, les gens qui ont fondé ce qu'on appelle l'Heure Joyeuse, la fondatrice française de l'Heure Joyeuse, qui avait 92 ans, 93 ans, vient de mourir, ainsi que Claire Huchet, qui était également une des fondatrices. Elles sont toutes les deux, elles avaient bon pied, bon œil et sont décédés. Et donc, cette entreprise de l'Heure Joyeuse est un des contre-exemples, si vous voulez, par exemple, par rapport au retard français, mais en même temps, elle ne fera pas vraiment école. Il y aura une 20, 25 et encore centres qui vivront plus ou moins bien de l'Heure Joyeuse, mais ça n'est que à partir de 65, que quasiment systématiquement, les bibliothèques municipales offriront des sections pour enfants, par exemple. Hein. Et encore, j'ai vu encore même en 66-67 des règlements que j'ignorais d'ailleurs. C'est bien sûr l'intérêt, c'est qu'on apprend de faire ce genre de choses, c'est qu'on apprend soi-même énormément de choses, heureusement, qui, croyez-moi, pourraient décourager plus d'un enfant à venir dans les bibliothèques. Donc, un entre-deux-guerres où les pouvoirs publics jusqu'au Front Populaire, qui est une première rupture, et effectivement, on aurait pu, la vraie rupture, si vous voulez, c'est plutôt 36, sauf que la guerre a fait que les premières tentatives n'ont pas pu véritablement éclore, mais quelque chose était prêt à changer, et il y a eu vraiment là une écoute de la part des pouvoirs publics qu'il n'y avait pas eu depuis fort longtemps. Alors, si je peux me permettre, je voudrais dire que ce retard français, d'abord, n'a jamais rien eu de prédestiné, n'était pas obligatoire et n'a pas toujours été le cas. Le 19e, bon, Jean Hébrard pourrait en parler très longuement, c'est tout à fait une autre affaire, a eu ses propres tentatives. Je crois que un des problèmes qu'on rencontre pour les bibliothèques comme pour le reste, c'est que les modèles ont leur temps. Et qu'en France, on met très longtemps à mettre en œuvre un modèle. Et au moment où le modèle devient presque majoritaire, ou en tout cas répandu, bien en fait, il est obsolète. Il est dépassé. Et ça, ce sera un des problèmes constants de la France, même dans ses tentatives de la seconde moitié du 19e siècle et au 20e siècle. La question de l'anticipation ou de la rapidité de répansion des modèles n'a pas du tout été bien gérée, parce qu'à chaque fois, il y a eu des obstacles et des difficultés. Mais puisque je vous parlais de ce Public and Museums Libraries Act de 1850, sachez pour la petite histoire que s'il est passé, C'est entre autres parce que les bibliothécaires et les parlementaires, l'espèce de commission parlementaire qui voulait à toute force faire passer, qui depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans se bagarrait pour faire passer cette loi au Parlement anglais, ont entre autres fait dans l'autre sens l'espèce de voyage initiatique que, après, depuis tout le XXe siècle, toutes les générations de bibliothécaires français font maintenant dans l'autre sens. On fait donc un voyage d'études, ça se faisait déjà, vers Paris et vers la France, et ont agrémenté donc leur rapport de nombreuses observations concernant la grande richesse des bibliothèques françaises, puisque 1840-1850, les saisies révolutionnaires étaient encore quelque chose de vivant, si vous voulez, dans les bibliothèques, et ne s'étaient pas encore transformées en leur contraire, un patrimoine devenu un peu mort quand il n'est pas enrichi. Et donc, c'est tout à fait intéressant de lire ce rapport où ces messieurs qui s'appelaient un peu Dupont et Dupont, puisqu'il y avait un Edwards et un Ewart, ont fait un rapport dithyrambique en disant qu'il faut absolument que nous aussi, en Angleterre, nous ayons des bibliothèques aussi riches et aussi merveilleuses que les bibliothèques françaises. Donc, si vous voulez, eh bien, c'est renversé cette affaire-là depuis longtemps. Et depuis longtemps, ce sont les bibliothécaires qui traversent la Manche, l'Atlantique ou qui volent vers le Danemark, le grand pays des bibliothèques, pour s'inspirer de ces modèles. Mais disons que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, un entre-deux-guerres où, quand même, justement, si on compare les crédits d'acquisition, les possibilités des bibliothèques municipales, pour ne pas parler des bibliothèques universitaires, à leurs homologues dans les pays, par exemple, donc au Royaume-Uni, non seulement ne vont pas rattraper le retard français, mais vont encore l'augmenter. Alors, ceci dit, de ci, de là, donc, des tentatives existent. Je vous parlais un peu de l'heure joyeuse, des bibliothèques pour enfants. Il faut tout à fait relier ça à une présence qui nous amuse aujourd'hui, a été fondamentale. C'est que le siècle s'ouvre sur la Première Guerre mondiale et que la Première Guerre mondiale se termine, comme chacun sait, par une forme d'aide et de présence américaine. Eh bien, cette aide et cette présence américaine dans les bibliothèques françaises va être importante. L'heure joyeuse est tout à fait donc inspirée de l'exemple américain. Un certain nombre de formations qui se mettent en place, qu'on appellera d'ailleurs, les chartistes l'appelleront l'école du Far West pour se moquer et se refuser un certain modèle, vont être très très liées. Nous avons retrouvé récemment un certain nombre de correspondances entre l'école française qu'a fondé un Gabriel Henriot, un des bibliothécaires de la ville de Paris, et Chicago, l'American Library Association, l'association des bibliothécaires, et puis les premiers bibliobus, les premières tentatives, on voit des photos là de ces tout premiers bibliobus qui vont circuler notamment dans l'Aisne, et donc un certain nombre de tentatives, mais ça va durer jusqu'en 22, 23, à peu près. Bon, à peu près, pas plus. Et puis donc, bien sûr, il y aura des personnalités de ci, de là qui vont tenter un certain nombre de choses. Donc, j'ai passé toute la matinée, et c'était très émouvant, avec Pierre Lelièvre, qui dès 1928 essayait de faire bouger la bibliothèque de La Rochelle. Ensuite, il a été nommé à Nantes. C'est, ensuite, bon, après la guerre, il aura une histoire très très importante dans cette direction des bibliothèques. Ça fait partie des personnalités qu'on cite en général, parmi quelques autres, dans les gens qui ont essayé de faire bouger les choses dans l'entre-deux-guerres. Et puis, on oublie toujours quand on résume, enfin, une autre émergence importante de cette période, qui a déjà des sources d'ailleurs avant la Première Guerre mondiale, et à la fin du 19e siècle, c'est la naissance à la fois d'un concept et d'un besoin, ou d'une conception et d'un besoin dont les fortunes ne sont pas encore terminées, ni complètement assouvies aujourd'hui, c'est la documentation. Va émerger à la fois en dehors des bibliothèques et dans les bibliothèques, mais beaucoup en dehors, en partie justement dans les entreprises, dans un certain nombre de services, des besoins auxquels va tenter de répondre cette discipline un peu nouvelle ou cette conception un peu nouvelle qui s'intéressera plus à l'information qu'à la culture, plus à la documentation qu'au patrimoine, si vous voulez. Donc c'est une nouvelle notion qui naît là et qui aujourd'hui est à la fois reprise en partie par les bibliothèques et à la fois a donné naissance à des services tout à fait particuliers avec toutes les technologies modernes aujourd'hui. Alors, Donc en 36, si vous voulez, on a autour de ces militants, on pourrait dire, là, on a enfin une certaine écoute dans le cabinet de Jean Zay et se regroupe dans une association pour le développement de la lecture publique. Ce qui est intéressant aussi, peut-être pour votre propre histoire ici, c'est cette volonté aussi qu'a eu la notion de lecture publique de bien se différencier de la notion de lecture populaire. Quelqu'un qui est évidemment abondamment cité dans mon volume, qui fait partie des grands hommes des bibliothèques, qui s'appelle Eugène Morel, qui a publié Avant-guerre, son principal ouvrage, en 1911, et d'autres vont, si vous voulez, comme je vous parlais de modèles tout à l'heure, vont s'insurger un peu, vont refuser les anciens modèles de bibliothèque populaire, en les trouvant, on pourrait dire, avec des termes d'aujourd'hui un peu trop paternalistes, et vont vouloir proposer ce nouveau terme et cette nouvelle notion de lecture publique. Je cite toujours, alors puisque les retards sont dans chaque pays, une bibliothécaire italienne, Carina Dainotti, qui aura aussi un rôle à la chute du régime fasciste italien, où il y aura des tentatives de structurer aussi la lecture publique, et elle disait, pas plus qu'il ne doit y avoir de gaz ou d'électricité populaire, il ne doit y avoir de bibliothèque populaire, au sens où on reproche un peu une forme donc d'encadrement des lectures, et que la notion de service public est tout à fait une autre notion dans ce qui est avancé. Donc cette association pour le développement de la lecture publique va se manifester sa présence donc en 36, 37, 38 et encore, oui, 38. Et puis, bon, l'intermède évidemment de la guerre sera un intermède douloureux et important pour les bibliothèques comme pour le reste. Et c'est un des points, par exemple, dans toutes les approches nouvelles qui ont été tentées, ça n'était évidemment pas facile, à aucun point de vue, de retrouver des données sur ce qui s'était passé pour les bibliothèques pendant la guerre. Et c'est un des points auxquels j'ai beaucoup tenu, c'est qu'on essaie de voir un petit peu ce qui s'était passé, à la fois pour les collections, pour les hommes, pour les personnes, pour l'application de mesures comme la liste Otto, comme les listes Bernard, pendant la guerre, etc. Alors, 45, si ensuite on passe à l'après-guerre, donc 45, je vous le disais, c'est la naissance de cette direction, la direction des bibliothèques et de la lecture publique, qui ne s'est d'ailleurs pas toujours appelée direction des bibliothèques et de la lecture publique. Le mot lecture publique est tombé, tout le monde l'a oublié, personne ne le sait, mais j'ai fait les recherches, et pour moi c'est un signe d'une forme, à un moment un peu, non pas d'abandon, mais de moment où la lecture publique n'était plus au premier plan dans cette direction. Et cette fin de ce sigle, de ce nom, est tombée entre 53 et 64, à peu près. Et donc, cette direction, qui est rattachée au ministère de l'Éducation nationale, a en charge à la fois la Bibliothèque nationale, les bibliothèques, non, j'ai pas encore beaucoup parlé, ces éminents représentants est là, les bibliothèques universitaires, créent complète, mais qu'elle va beaucoup développer, on en parlera un petit peu, ça c'est vraiment sans doute la meilleure période des bibliothèques universitaires, ce sera entre 55 et 70 en gros, hein, il y a 10 ans très bons, 60-70, enfin très bons, où on arrive à peu près à courir après ce qui est déjà la massification de la population étudiante, courir après, jamais vraiment quand même anticipé, mais c'est, il y a beaucoup de construction, il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Donc, elle en charge la Bibliothèque nationale, c'est en tutelle directe, je veux dire, hein, la Bibliothèque nationale, les bibliothèques universitaires, elle crée une structure complètement nouvelle qui va faire écho à ce que je vous ai dit sur les bibliobus tout à l'heure, elle crée ces bibliothèques centrales de prêt, dont souvent on ne connaît pas le nom, mais qu'on connaît toujours par ce qu'elles ont représenté pendant plusieurs dizaines d'années dans les campagnes françaises, c'était les fameux bibliobus. Et les bibliothèques centrales de prêt, en effet, ça vient d'être fait en 82, de prendre la décision de finir de construire une BCP, BCP c'est le sigle, par département, mais l'idée était donc, et il y en a eu dès la première année, dès les premières années, les trois premières années, 17 de créés, enfin il y en a quand même eu un très grand nombre de créés pendant ces 20 premières années, les bibliothèques centrales de prêt donc devaient desservir les villes. Alors le taux a évolué un peu au cours de la période, mais disons maintenant, en tout cas, c'est les villes de moins de 10 000 habitants. Et à l'époque, l'arme principale qu'elles avaient, c'était les bibliobus. Donc ça, beaucoup de gens connaissent les bibliobus sillonnant la campagne, puisque la grande idée, et c'est vrai que dans l'après-guerre, on retrouve évidemment beaucoup des enthousiasmes aussi. Pierre Lelièvre me disait ce matin, alors on s'est arrêté en 45, parce que je voulais absolument qu'il me parle d'abord de l'avant-guerre, mais il commençait sur 45 en me disant quel enthousiasme les animait à la libération, justement dans cette direction pour créer et avancer les choses. Les bibliothèques centrales de presse sont des services extérieurs de l'État. Bien que départementaux, ils dépendent complètement de l'État, et ça n'est que depuis 1986, avec la décentralisation, que ces BCP ont été données, entre guillemets, ont été affectées au département qui maintenant, eux, les ont complètement en charge. Et puis, d'autre part, l'État et cette direction exerçaient ce qu'on appelle le contrôle technique, et suivant différents modes, sur les bibliothèques municipales, et avaient d'autre part sur une partie de ces bibliothèques municipales qui avaient été classées pendant l'entre-deux-guerres, c'était quand même une des mesures positives aussi, classées avant, puis un lot plus important pendant l'entre-deux-guerres, avait aussi une tutelle sur ces bibliothèques qui ont été classées, entre autres, pour résumer, parce qu'elles ont fait justement un fonds patrimonial riche et important. Quand on fait le tour de l'ampleur des responsabilités qu'avait cette direction, on voit bien que même s'il y a eu là une volonté politique assez forte et qui durera, mais qui n'aura pas toujours les moyens qu'elle souhaitait avoir, on voit bien peut-être aussi l'un des problèmes, c'est-à-dire que avoir des bibliothèques d'une telle diversité et des publics potentiels d'une telle diversité entre les mains d'une seule direction, qui jamais n'aura les moyens budgétaires qu'elle souhaitait avoir, va, peut-on penser, la conduire, suivant les moments, à privilégier peut-être l'un ou l'autre des secteurs. Et peut-être tous les secteurs ne pourront pas au même moment bénéficier des moyens dont il aurait fallu qu'ils bénéficient. Donc il y a des périodes différentes, il y aura beaucoup de créations au départ, et par exemple, les créations vont s'estomper. Et alors qu'on pensait équiper tous les départements de bibliothèques centrales de prêt, je ne sais pas, sur une dizaine d'années par exemple, sur une quinzaine d'années, je suppose que des plans avaient été faits, eh bien ces constructions vont s'arrêter. Et il y aura quand même un nombre non négligeable de départements qui ne disposeront pas de bibliothèque centrale de prêt. Ce sont des bonnes périodes pour la Bibliothèque nationale, elle ne disposera pas toujours, ce n'est pas toujours une bonne période, la deuxième moitié de cette époque-là est sans doute moins bonne pour la Bibliothèque nationale, et elle-même aura sans doute, et ça c'est en même temps constitutif et difficile pour elle, aura sans doute du mal à la fois assumer ses fonctions de bibliothèque nationale et l'ampleur que devraient être par exemple ses acquisitions, son rôle qui n'est pas que de recevoir le dépôt légal, mais aussi, et on en reparle beaucoup en ce moment, d'acquérir une proportion représentative des publications étrangères. On voit bien là, par exemple, quand on compare la Bibliothèque nationale anglaise, la British Library, et la Bibliothèque nationale, comment, celle-ci le dit elle-même, depuis le début du siècle, elle a été obligée de renoncer à une forme d'encyclopédisme dans ses acquisitions. Et puis surtout, je crois, la difficulté, en même temps, la Bibliothèque nationale va offrir beaucoup de services communs aux bibliothèques, ce qu'on appelle des services communs, si vous voulez, dans notre jargon à nous, c'est comme dans tous les métiers, il est un peu bête que chacun refasse dans sa bibliothèque les mêmes tâches. Et par exemple, ce qui est quand même une arme pour nous, ces fameux catalogues, vous voyez, des tentatives comme ça, tout au long du siècle et toujours, mais surtout dans la deuxième partie du siècle, et à nouveau maintenant, ça se pose en des termes un peu différents avec les technologies modernes, encore mal maîtrisées, mais bien utiles, il y a toujours eu des tentatives, si vous voulez, de ce qu'on appelle la coopération. Dans notre jargon, hein. Donc partager ou demander, attendre d'un organisme central qui a des missions plus importantes, bien sûr, de proposer des services de coopération en tout genre. Donc ça, c'est une longue histoire aussi que celle des services de coopération de la Bibliothèque nationale ou en général des bibliothèques publiques. Moi, je pense que parmi les grandes réussites actuelles, les remises à niveau actuelles, l'une des choses sur lesquelles on bute encore, ce sera sans doute ça. parce que je pense que l'avenir ne sera pas très rose, malgré tout, pour les bibliothèques. Et peut-être une des choses qui sera difficile, c'est que, on pourrait dire, pour se mettre en cause aussi nous-mêmes, peut-être les bibliothécaires français n'ont-ils pas assez l'esprit pragmatique d'une part et coopérateur d'autre part. Peut-être aussi, bon, non, les moyens peuvent toujours être mis en avant. Les problèmes budgétaires, c'est très facile de les mettre en avant. Et je pense que dans les réussites actuelles, même ce qui a, il faut le dire, à peu près échoué, c'est nos tentatives de coopération. Alors c'est un peu compliqué parce que ça peut se faire à tous les niveaux, hein. Il n'y a pas seulement, c'est pas seulement au niveau national, loin de là. Ce que j'entends par coopération, c'est que puisqu'il y a différents types de bibliothèques, eh bien on devrait pouvoir irriguer et être complètement en lien les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'une petite bibliothèque puisse renvoyer sans problème ses lecteurs à des services plus spécialisés, etc. Vous voyez tous ces systèmes-là et où chacun sait ce qu'a les autres, peut coopérer, s'entraider, etc. Ça s'est dit de manière un peu rapide, mais en gros, on peut entendre les choses comme ça. Donc, je vous l'ai dit, un investissement assez important de la part de cette direction et en même temps sans doute des jeux d'équilibre assez difficiles entre les différents secteurs dont elle avait la charge, pratiquement intégrale à cette époque-là, sauf bien sûr les bibliothèques municipales dont notre cher ancien ministre Jacques Lang aime à faire croire qu'il a beaucoup fait pour elle, ce qui est tout à fait vrai. Les mesures incitatives de l'État sont fondamentales. Sans les mesures incitatives de l'État, les bibliothèques, et c'est ce qui a fait la force de la direction des bibliothèques en 45, et c'est ce qu'il a fallu reprendre en 67, à nouveau, j'y viendrai, pour les bibliothèques municipales, et c'est ce qui a été repris en 82. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on avait fait la même chose pour les musées, etc. Hein, et pour les théâtres, c'est beaucoup dans l'histoire des maisons de la culture, je viens de relire ça, c'est très intéressant de comparer les trois, c'est les mêmes années, c'est la même chronologie, c'est vraiment les mêmes périodes. Je pense que là, il y aura des travaux à poursuivre. Ça, je veux absolument qu'on compare plus les différents secteurs culturels. Et si vous voulez, les mesures incitatives, c'est-à-dire par exemple que l'État, quand il y a une construction, donne 50% de la construction, parfois il y a eu des aides de poste. Au début des années languiennes, il y a eu des aides en termes de poste. On voit bien l'apport incitatif de l'État. Et en même temps, il est bien évident que l'État ne peut rien faire si une municipalité, si une commune ne veut rien faire. Et fondamentalement, la lecture publique, par maintenant donc les départements, dépend de la volonté des communes. Donc elles auront aussi leur mot à dire, important dans cette histoire. L'une des raisons peut-être du retard français, alors même dans l'après-guerre, où les choses vont bouger assez vite, c'est peut-être que quand il y a eu dans les années 60 un certain nombre de mouvements, eh bien il se trouve que les mouvements se sont faits plus autour du théâtre. On pense aux maisons de la culture, peut-être à certains moments autour des musées, et que les bibliothèques, alors qu'ils sont arrivés en force depuis les années 80, là, ne sont pas apparues tout de suite comme un élément aussi important. Et peut-être une des choses qui a mis du temps à faire son chemin aussi, c'est l'idée que les adultes, et ça c'est des notions qui ne font que croître pendant tout l'après-guerre, que la formation continue, en tout cas, si ce n'est professionnelle, même humaine, des adultes, était quelque chose qui représentait un réel besoin et que les communes devaient elles aussi prendre en charge. Alors, en disant ça, ce que je veux vous dire, c'est que, alors ça c'est une des choses à laquelle Anne-Marie et Jean s'intéressent beaucoup, ils sont beaucoup plus savants que moi pour en parler, mais ce qui va à la fois être une force et un problème, on le voit bien aujourd'hui quand on entend parler de ces affaires d'illettrisme, etc., sur lesquelles nous travaillons aussi bien sûr, c'est que l'idée de ce qu'est la lecture va être de plus en plus diversifiée. Ce ne sera pas seulement les romans pour le peuple, comme on pensait à un moment, ou les délits pour les grands-mères, comme certains ont l'image des bibliobus. Ce ne sera pas seulement la lecture des érudits locaux, comme ont été bien longtemps les bibliothèques municipales, qui étaient destinées, ou en tout cas surtout utilisées. Quoiqu'à mon avis, il faudrait revenir sur cette image un peu rapide qu'on a sans doute des bibliothèques municipales des années, même de toute la moitié du siècle. Je pense que c'était déjà pas ça. Disons que si vous voulez, on va avoir toujours, ça c'est une caractéristique du siècle, et les 10 dernières années vont devenir vraiment affolantes par rapport à ça, un élargissement constant des publics qu'on voudrait servir, mais aussi de ce qu'est la lecture et des besoins de ces publics. Et ça quand même déjà dès les années 60, et c'est présent. Et l'investissement des communes va se faire plus forte à la fin des années 60. Donc vous voyez une volonté assez forte en 45, des investissements forts ou à certains moments sur la Bibliothèque nationale, sur les bibliothèques universitaires, dans cette création de ces bibliothèques centrales de prêt, qui en plus ont toujours eu des crédits d'acquisition assez bons quand on compare même aux bibliothèques universitaires il y a ne serait-ce que 4 ans. Ça, j'ai vu des choses comme ça incroyables. Et en même temps, il va falloir faire des choix. Et donc, les communes, il faut vraiment qu'elles se préoccupent des bibliothèques et que la notion même de bibliothèque est en train d'évoluer. Et c'est donc plutôt après un nouveau tassement, puisque le début des années 60, c'est quand même un certain tassement. Et on voit bien que du côté de la lecture publique, les choses ne sont pas faites encore. Et ça, ça donnera lieu à un nouveau groupe d'études, où les nouveaux pionniers de cette nouvelle génération vont mettre leurs mains, et qui est assez connue comme nouvelle étape de cette politique incitative de l'État envers les bibliothèques municipales et publiques. C'est un rapport donc de 1967, et qui à nouveau dit comment il n'y a que 5% d'inscrits dans les bibliothèques municipales françaises, alors qu'en Grande-Bretagne on est à 30, 35, 40, 50, je pense qu'on était plutôt quasiment à 50, comme au Danemark, etc. Donc toujours le constat des carences avec les comparaisons avec l'étranger. Donc, à nouveau, ces mesures incitatives entre 67 et le milieu des années 70. C'est pour ça que j'ai fait un peu cette nouvelle rupture dans les années 70. Pourquoi une nouvelle rupture? Bien, pour une chose et son contraire. À la fois des avancées et des reculs. Des avancées, ou en tout cas des grandes mutations qui arrivent, c'est, entre guillemets, la révolution technologique. L'apparition des bases de données, de l'informatisation, de tout ce qui va complètement bouleverser façon de faire et façon de penser, c'est le début des années 70. Et toutes les mutations difficiles que ça entraîne et les tentatives faites d'avancer et de recul, puisque même encore aujourd'hui, on n'est pas abouti tout à fait, puisque ce qu'on espère enfin, c'est qu'il y ait justement bientôt un catalogue collectif des bibliothèques de France, un peu général, si ce n'est toutes les bibliothèques, tout au moins les fonds les plus importants. Et ça n'est pas encore fait, mais on espère qu'avec cette bibliothèque de France en train d'être construite, et les grands chantiers auxquels elle donne lieu, et les grands investissements auxquels elle donne lieu, ceci sera chose faite dans quelques années. Donc cette mutation technologique est quelque chose d'extrêmement important, qui donc va, comme dans toutes les professions aussi, avoir des incidences professionnelles assez importantes. Ça, c'est un exemple de mutation dans un sens. Et le début des années 70 sont une avancée pour certains, un recul pour d'autres. Je pense qu'effectivement, pour la Bibliothèque nationale, les années 70 qui s'ouvrent ne sont pas de bonnes années. Pour les bibliothèques universitaires, elles sont de très mauvaises années. La dernière, c'est un bon exemple, puisqu'en gros, les bibliothèques universitaires ont été, on peut le dire, abandonné vraiment à partir de 1973-74. Alors c'est aussi, on le sent bien, ça c'est une des choses qui est très frappante. Les bibliothèques, pas plus que d'autres structures, ne sont en dehors du monde, et la crise économique va les toucher elles aussi. 73 va bien sûr encore empêcher un peu plus des blocages budgétaires. Donc la dernière construction, si vous voulez, de bibliothèque universitaire, alors que la population étudiante ne va faire à ce moment-là, elle croissait déjà avant, hein, il faut pas, c'était énorme. Mais disons que ça a été beaucoup le second degré, hein, l'augmentation la plus forte aura été sur les âges du second degré, alors qu'effectivement à partir du milieu des années 70, et c'est du côté des étudiants que les chiffres se multiplient par 10, 15, je ne sais plus. Et face à ça, non seulement on fait pas un développement gigantesque des bibliothèques universitaires, mais même on les abandonne plus ou moins. La dernière construction, jusqu'à pratiquement aujourd'hui, puisque les constructions de bibliothèques universitaires, les premières là, sont en train, même pas encore de sortir du sol, mais d'être planifiées. Enfin, certaines sont en train d'être construites. La dernière construction, c'est Pau, en 1975. Donc, et même rénovation, pratiquement, il n'y a pratiquement rien eu entre 75 et aujourd'hui. Et si on prend les exemples des développements d'aujourd'hui, même un État qui a fait énormément pour les bibliothèques ces dernières années s'est réveillé un peu tard pour les bibliothèques universitaires, puisque c'est depuis 88 que les efforts se sont multipliés et que leur budget a été triplé en 4 ans. Là. Donc, vous voyez, ces mouvements d'avancée et de recul, alors il y a aussi un événement qui a beaucoup, j'aurais dû en parler en premier, mais enfin, pas complètement, parce que c'est pas la seule raison qui m'a poussée, comme je vous le dis, à choisir les débuts des années 70. Ce sont vraiment des signes différents, certains d'avancée, certains de reflux. Et ce qui a pu paraître un reflux à un moment, c'est, et je crois en même temps qu'il finalement est allé quand même dans le sens de l'histoire, c'est que cette fameuse direction, qui avait quand même tant fait pour que les bibliothèques se développent en France, a été supprimée en 1975. Et c'est de là que maintenant les bibliothèques sont rattachées. Certaines à l'éducation, hein, c'est-à-dire notamment les bibliothèques universitaires restent à l'éducation, bien sûr, ou à l'enseignement supérieur aujourd'hui, mais les bibliothèques publiques, centrales de prêt ou la tutelle des municipales, j'y tiens, hein, les municipales, elles sont municipales, mais certains contrôles techniques, puis un peu plus tard, la Bibliothèque nationale vont-elles être rattachée au ministère de la Culture, qui le voulait depuis longtemps, puisque le ministère de la Culture avait été créé en 1959, Malraux, et que donc depuis assez longtemps, le ministère de la Culture guignait et sur la Bibliothèque nationale et sur les bibliothèques publiques en disant le livre. Donc dans un premier temps, à la fois ça fait, c'est normal, c'est une mutation qui a beaucoup effrayé les personnes, et puis qui est tombée dans une période où de toute façon l'État ne s'intéressait plus vraiment aux bibliothèques, donc effectivement les premières années qui ont suivi ont été tout à fait noires, je vous l'ai dit, et cette fois pour tout le monde. Donc des signes un peu différents, puisque d'un autre côté quand même, le mouvement d'après 67, 68, 68 n'a pas grand sens pour les bibliothèques, il faut bien le dire, à mon avis, si ce n'est par leur absence, justement. Oui, voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas eu de sens pour les personnes qui en étaient membres. Le mouvement un peu de développement d'un certain nombre de bibliothèques municipales, lui, continuait. Sans beaucoup de soutien de l'État, mais il continuait depuis la fin des années 60. Et notamment dans la ceinture, non pas à Paris, mais dans la ceinture Île-de-France, dans la ceinture rouge, il y a eu des efforts importants. Oui. Et alors, tout ça est accompagné surtout de mutations internes dans ce que sont les bibliothèques. Ici, on est en libre accès depuis 1861, mais ailleurs, 100 ans plus tard, on n'y est pas. C'est pour ça que j'admire doublement et encore plus cette bibliothèque. Et ce qui va beaucoup changer aussi, c'est la manière dont sont organisées les bibliothèques. Ça va vraiment se mettre en place dans les années 60, et puis bon, maintenant c'est fait. Quoi qu'il faut toujours poursuivre, et ce sont des choses qu'on ne demande pas aux bibliothèques de recherche, par exemple, dont c'est pas vraiment la mission, et le mode d'organisation premier, mais quoique, par exemple, la Bibliothèque de France, par rapport à la Bibliothèque nationale, a fait comme choix, alors tout ça se discute, d'offrir, pas loin, ce sera pas à l'ouverture, mais ensuite d'offrir 800 000 livres en accès libre, en plus de ces 10 millions de collections de la Bibliothèque nationale. Ce qui est un choix intéressant, mais qui, à mon avis, lui coûtera cher. Mais, par contre, en revanche, du côté des bibliothèques publiques, voire même des bibliothèques universitaires, ça c'est une date, en 1962, on conseille aux bibliothèques universitaires d'organiser, au moins pour le premier cycle, leur collection en accès libre. L'idée, c'est que c'est très important, si on veut développer la lecture et l'usage des bibliothèques, que les gens n'aient pas un code, comme disaient mes lecteurs à la BPI, au lieu de dire « cote », ils disent « code », je trouve que c'est un lapsus tout à fait significatif, que les gens n'aient pas l'impression d'être dans un univers plein de règles, difficiles, etc. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs notions qui vont changer ainsi dans la façon d'organiser les bibliothèques, cette volonté d'accès libre aux collections, de, bien sûr, ça c'est le nerf de la guerre, à mon avis, hors ça, point de salut, avoir des crédits d'acquisition qui leur permettent d'enrichir leurs collections, et puis apparaît peu à peu, en tout cas pour la lecture publique, cette notion de médiathèque. Personnellement, je ne suis pas fanatique du terme, mais l'idée, en tout cas, c'est, et ça c'est un choix assez consensuel, peut-être trop, qu'ont fait les bibliothèques dès les années 60, les bibliothèques publiques, c'est que même si le livre reste premier, eh bien, la civilisation moderne et les besoins modernes étant ce qu'ils sont, autour du livre peuvent très bien être présentés d'autres médias. Et on voit bien l'apparition, dans les années 60, c'est les disques, dans les années 70, c'est cassette, un peu de langue, premier film, mais un peu archaïque, et puis les années 80, les films, la vidéo, et puis les années 90, tout ce qui est évidemment, mais là on n'est même plus dans l'image, logiciel, informatique, télématique, et autres tics en tout genre. Qu'on a évoqué beaucoup de choses et donc je vous ai parlé à diverses reprises de la période contemporaine qui verra deux choses, enfin en tout cas pour la décennie 80, d'une part un gouvernement très engagé du côté du développement des bibliothèques qui s'intéressera d'abord peut-être plutôt effectivement aux bibliothèques publiques, hein, avec ces mesures incitatives dont j'ai parlé, avec la création des BCP manquantes, et qui en même temps voudra à la fois remettre à niveau le pays en termes de bibliothèques, et d'autre part préparer la décentralisation. Et croyez-moi, les deux choses ne sont pas faciles, parce qu'elles peuvent paraître parfois un peu contradictoires. Donc les deux mouvements seront tentés. Qui s'intéressera plus tardivement aux bibliothèques universitaires, il faudra le fameux rapport Mikkel, vous avez peut-être entendu parler du rapport Mikkel, qui fera le constat des carences importantes des bibliothèques universitaires et encore une fois comparera à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, pour montrer le gouffre qui sépare les bibliothèques universitaires françaises des bibliothèques étrangères, d'un certain nombre de bibliothèques étrangères, puisqu'on trouve toujours aussi plus mal. L'Europe du Sud est bien sûr moins développée encore que la France. Il y a beaucoup de niveaux dans l'Europe, et puis qui prendra cette décision princière de construire une nouvelle bibliothèque nationale, qu'on appellera donc un temps la TGB, la Très Grande Bibliothèque, et qui a maintenant son nom de Bibliothèque de France, et qui, mais là vous avez dû lire les journaux, a fait elle aussi matière à débat, a fait couler beaucoup d'encre, et voit partisans et adversaires s'opposer de considérable manière, qui n'a sans doute pas fini de faire parler d'elle avant l'ouverture qui est prévue maintenant en 1996. Il y aurait une inauguration un peu officielle en 1995 et la véritable ouverture serait en 1996.
Mais je pense qu'on peut ouvrir le débat et puis à l'occasion, Anne-Marie intervenir. Ou moi, nous pouvons intervenir un peu plus longuement selon les questions qui seraient posées.
Est-ce que vous pouvez nous préciser le décalage qu'on a avec les anglo-saxons?
Oui, alors, et en même temps, je peux vous préciser, pour dire un peu le contraire maintenant, hein, puisque de toute façon, en règle générale, c'est bien d'avancer des choses et le contraire. Non, je dis ça parce que la situation, pour eux, n'est plus ce qu'elle était. Et c'est en ça aussi que je suis relativement inquiète de cette espèce...
C'est l'inverse.
C'est même tout à fait l'inverse. Et c'est en ça aussi que je ne suis pas très optimiste. C'est pas seulement pour des raisons politiques, c'est aussi pour des raisons économiques plus larges. Je ne suis pas non plus très optimiste sur l'avenir pour les bibliothèques françaises. Si vous voulez, le développement des 10 dernières années, alors à contrario, est un paradoxe. Et le paradoxe français par rapport à l'état des bibliothèques.
Toutes les bibliothèques mondiales.
Voilà. Mondiales, on peut dire, oui, mondiale. Puisque que l'on prenne les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, même l'Allemagne, tous les pays, puis alors évidemment avec des choix politiques différents, c'est-à-dire que Mme Thatcher n'a jamais vraiment été une amie des bibliothèques, loin s'en faut, elle leur a vraiment fait beaucoup de mal. Donc les choses étaient encore plus fortes lorsque les gouvernements s'en désintéressaient, mais dans l'ensemble, depuis le début des années 80, sont très noires, mais on peut dire très noires pour les bibliothèques européennes et mondiales et dans tous les secteurs, que ce soit les bibliothèques de recherche, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques nationales, je pense, et les bibliothèques publiques. Alors, on voit apparaître des choses qui étaient inimaginables, du chômage chez les bibliothécaires en Suède ou au Danemark, des écoles qui ferment. Il y avait 13 écoles en Grande-Bretagne, nous en avons une, mais depuis 65 seulement. Des sections d'écoles qui ferment, des bibliothécaires. Écoutez, moi j'étais avec des collègues anglais, on leur a téléphoné dans l'après-midi que le terrain où était leur bibliothèque, 6 terrains, était vendu. Des collections qui quand même s'abîment, on le voit dans la recherche, des coupures budgétaires gigantesques. Je peux parler du Canada, on peut prendre le Canada, c'est la même chose. Bon, donc une crise importante. Alors,
et une crise de la lecture, c'est-à-dire les lecteurs... À abandonne les bibliothèques.
Si on aborde la question de la lecture, je crois voilà. On a beau être trois spécialistes, on peut dire ça sans péché d'orgueil. Justement, peut-être parce qu'on est assez spécialistes, plus on s'approche des questions de lecture, plus les choses sont compliquées. Alors, nous sommes confrontés toujours à des gens bourrés de certitudes qui nous disent c'est la faute à la télé, ou c'est la faute à ceci, ou c'est la faute à cela, et nous sommes bien placés pour savoir que... Mais peut-être nous sommes insatisfaisants parce qu'on n'avons pas de réponse évidente, mais tant pis, c'est comme ça. On pourrait prendre des tas d'exemples, par exemple les bibliothèques universitaires et la recherche. Les chercheurs n'ont pas arrêté de lire ou n'ont pas arrêté de faire des recherches. Or, ils sont confrontés à des bibliothèques qui sont elles-mêmes atteintes par des coupes budgétaires, etc. Donc, si vous voulez, pour préciser, même aujourd'hui, où les enquêtes nous disent que, même en étant généreux, on pourrait aller jusqu'à 23% de la population adulte française qui fréquente des bibliothèques. Inscrite, c'est 17. Mais qui fréquente, c'est-à-dire le chiffre le plus gros. On était plutôt autour de 12 au début des années 70 maximum, mais donc encore moitié moins dans les années 60. Peut-être certains pourront contester ces chiffres, mais j'ai fait un livre sur les bibliothèques publiques de la communauté européenne, donc j'ai à peu près les statistiques. On est absolument en queue, mis à part les États du Sud, où alors là, il y a des gros problèmes et de lecture et de bibliothèque en Italie, Espagne, Portugal, et Grèce. Pour ne pas parler de la Grèce qui est encore derrière. Mais on a toujours aujourd'hui au moins 60% d'inscrits au Danemark, 40 à 50 en Grande-Bretagne, autour de 30 en Irlande, qui, bien que pauvre, mais c'est le même système un peu que la Grande-Bretagne, donc c'est-à-dire des bibliothèques partout. Et alors là, une des choses que j'ai découvertes justement en faisant cet autre livre, c'est en revanche chez l'Allemagne. Puis Belgique, Pays-Bas, je vais vous faire tout, puisque... L'Allemagne, alors c'est intéressant l'Allemagne, parce qu'on a toujours une image, nous avons une image dans notre métier assez idyllique de l'Allemagne. C'est beaucoup plus vrai pour ce qui est des bibliothèques universitaires et de recherche que pour les bibliothèques publiques. J'ai découvert à mon grand étonnement que justement il y avait à peu près 10 ou 11% des Allemands, pas parler de l'Allemagne de l'Est, ça c'est... Une histoire forte aussi pour les bibliothèques maintenant allemandes. 11% d'inscrits dans les bibliothèques publiques allemandes. Un chiffre qui n'est pas aussi bon que ce qu'on pouvait croire ou ce qu'on pouvait espérer. Maintenant, leurs bibliothèques universitaires sont plus ouvertes. Mais enfin, je pense pas que ça rattrape quand même complètement les choses. Alors, si vous voulez, ces pays-là qu'on cite, Grande-Bretagne, même Irlande, Danemark, ça sont donc des pays qui se sont donné des législations, y compris des mesures fortes, pratiquement dès le milieu du 19e siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir des pays qui ont pris des mesures beaucoup plus récentes, ce qui pourrait être un peu intéressant pour des études comparées avec la France. La Belgique a fait une première loi qui s'appelle la loi Détré en 1911 ou 21, je crois. Donc, première tentative. Puis là aussi, alors l'affaire Flamand-Vallon, tout ça, ça joue beaucoup dans les séparations administratives, pas mal. Et puis, aura une deuxième série de mesures dans les années 60. Alors, les statistiques, je crois, sont autour de aussi quelque chose comme 25% de la population inscrite. Et puis, les Pays-Bas, c'est milieu des années 60, et je ne sais plus le chiffre après, mais ça a été très vite. Alors, évidemment, après, il faut voir, moi, je dis toujours à mes étudiants qui sont de bons futurs bibliothécaires, donc des fois, se reprochent beaucoup de choses et aiment bien se faire mal. Et je leur dis toujours, bon, c'est vrai, le retard français, etc., mais... Consolez-vous un petit peu, l'organisation d'un pays de 4 millions d'habitants comme le Danemark, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, même s'il y a une tradition que des pays de 55 millions d'habitants. De l'autre côté, la lecture, semble bien quand même en reflux, pas aussi catastrophique que certains aimeraient nous le faire croire, mais quand même, c'est pas l'apocalypse, mais quand même en reflux également dans tous les pays.
Dans tous les pays, oui, c'est ça. Les Allemands, par exemple, nos collègues universitaires allemands aiment dire qu'ils ont de superbes bibliothèques universitaires, mais qu'on n'y trouve jamais un étudiant. Ils exagèrent toujours beaucoup, comme tous les enseignants, mais je crois que ça signifie quand même quelque chose d'assez fort. Et comme le soulignait Martine tout à l'heure, il y a une espèce de situation tout à fait curieuse en France, puisque le grand développement des bibliothèques françaises est complètement à contre-courant, à contre-temps du développement des bibliothèques en Europe. Pourquoi ce développement dans les 10 dernières années, dans les 15 dernières années? C'est un peu un mystère lié à des choix politiques, certes, à des visions politiques, plus exactement. Peut-être cette gauche qui est arrivée au gouvernement en 81 était une gauche culturellement un peu archaïque et donc très centrée sur le livre et a joué le livre comme pivot du développement culturel. Mais ça conduit à une situation assez étrange puisqu'aujourd'hui je crois qu'on peut considérer que la France est quand même relativement en tête en équipement de bibliothèques. Hein, au niveau en tout cas des bibliothèques de lecture publique. Et cela s'est fait en très peu de temps et sans que pour autant les pratiques de lecture des Français se soient beaucoup modifiées. Et c'est peut-être des points qui expliquent cette situation un peu particulière de la France. On a des habitudes de lecture. On n'a pas des explications univoques partout. Hein. Mais si on prend le cas des Américains, les Américains ont épouvantablement manqué de livres. Dès le XVIIIe siècle, pendant le XIXe siècle, pays très rural, pays avec une tradition éditoriale faible, tributaire des envois de livres de Grande-Bretagne, la tradition américaine, très longtemps, a été soit de se contenter de l'imprimé périodique, pensez à tous les grands romanciers de la fin du 19e et du début du 20e siècle américain, qui arrivaient par le journal, par l'hebdomadaire, ou par le quotidien, ou par le mensuel. Et puis par ailleurs, il n'y a pas de librairie aux États-Unis. Quand on compare le développement de la librairie dans les différents pays européens, on est très frappé de remarquer que la France est un des pays qui conserve encore le plus de librairies. La France est un pays où on achète le livre, plus que ce qu'on va le consulter. Ce qui est très frappant, par exemple, quand on va chez des collègues universitaires étrangers, c'est de voir leur bibliothèque. Le moindre petit universitaire français ne sait plus où mettre ses livres. L'universitaire américain n'a pas de livre chez lui. Ses livres sont les livres de son institution. Il y a ces décalages culturels sur les rapports au livre, sur les pratiques du livre, qui font que peut-être plus que les autres pays, la France est restée très longtemps un pays où le livre s'approprie, où le livre s'achète, où le livre se stocke, où le livre se transmet. Et peut-être des lieux comme ici sont des lieux assez exceptionnels parce que justement, ils n'ont jamais vraiment bien pris. Dès qu'une démocratisation du livre apparaît, comme le livre de poche, eh bien justement on achète plutôt que d'emprunter. Donc ça je crois que c'est aussi un point sur lequel il faut faire attention quand on regarde le rapport des Français à la lecture publique. Parce que le fait d'aller peu en bibliothèque ne signifie pas du tout qu'on ne lit pas. Et à l'inverse, le fait d'aller beaucoup en bibliothèque, comme par exemple en Grande-Bretagne, ne signifie pas qu'on lit.
Beaucoup. Qu'on lit beaucoup. Qu'on lit beaucoup. Beaucoup.
Parce que la bibliothèque, effectivement, est un lieu où, en particulier en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans des lieux comme ça, où on ne va pas obligatoirement lire des livres.
Oui, c'est aussi un lieu de sociabilité.
C'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'information. Il faudrait revenir sur ce que disait tout à l'heure Martine sur les informations. Et pas obligatoirement un lieu de lecture.
Quand on met en regard les pratiques de lecture et les problèmes de bibliothèque, une des questions qu'on s'est un petit peu posée, c'était de savoir si finalement ce retard séculaire de la France, qui est pourtant un pays où la vénération des écrivains, de l'écriture et des beaux livres est quand même très très fort, ne venait pas aussi d'une certaine représentation de ce qu'est la lecture. Si finalement les politiques pouvaient pendant des siècles dire qu'ils allaient dépenser de l'argent pour les bibliothèques et ne pas le faire et que ça provoque finalement si peu de pression dans l'opinion, parce qu'à la limite on peut penser que ce qui fait aussi qu'il y a des accompagnements de politiques budgétaires chères, c'est qu'il y a une pression forte du point de vue électoral. C'est qu'on sent très bien que c'est important de mettre ça en place plutôt qu'autre chose. Et finalement le retard français, on est bien obligé de l'imputer à une absence de pression de l'opinion publique de ce côté-là. Peut-être là on est obligé de travailler ce problème du type de relation à la lecture qu'il y a eu en France, dans la mesure où c'est sur les modèles d'école aussi qu'on a essayé de travailler, c'est de voir qu'est-ce qui en France finalement se mettait en place à travers la scolarisation primaire, secondaire, comme type de relation au livre qui pouvait faire que d'une part la fréquentation de la bibliothèque apparaisse une chose sans doute très bien mais finalement pas si urgente, enfin pas si prioritaire. Et un petit peu ce qu'on a trouvé tout au fil du siècle, malgré des discours qui sont des discours déjà très américains, de bibliothécaires pionniers des années 1900, le discours massif, c'est que la lecture, qu'est-ce que c'est? C'est la lecture des grands livres, c'est la lecture de la littérature.
C'est pas du tout la lecture des ouvrages documentaires dont on a besoin pour la vie quotidienne. C'est pas du tout la lecture de consultation. C'est pas du tout la lecture d'information. C'est la lecture des classiques.
Dans cet esprit-là, on a une fameuse tradition de censure depuis des siècles.
Mm-hmm. Alors, non seulement de censure, mais de très haut niveau d'exigence. À partir de 1880, il y a une liberté totale d'imprimer. Mm-hmm. Mais la censure, elle va rester dans les têtes sur quelles sont les lectures qui sont des lectures qu'on peut recommander à des jeunes en formation, même si on abandonne l'idée de lecture populaire, il n'empêche que, on ne considère pas d'emblée que lire, c'est bien. Voilà. On commence à lire quand on a fini tout le reste. Il y a une enquête récente qui a été faite sur la lecture en milieu rural par la BPI. On interroge des femmes aujourd'hui sur finalement leur représentation, sur leur relation à la lecture. Et beaucoup disent qu'elles ne lisent que la nuit. Parce qu'elles auraient honte dans la journée, elles aiment lire, elles veulent lire, mais si quelqu'un entrait les voyait lire, elles auraient honte parce que quand même, on les prendrait pour des flemmardes. Et oui, alors du coup, le deuxième aspect, c'est la seule chose qui justifie de lire, c'est que ça soit vraiment de la lecture de haut niveau culturel.
Et de formation.
Et de la lecture de travail et la lecture de formation. Et que donc finalement, lire, eh ben, c'est lire Flaubert, c'est lire les classiques, c'est lire le patrimoine indémodable et pas du tout lire la modernité divertissante ou instructive. On sent très bien qu'il se met en place un type de modèle d'école, donc lié aussi à un petit patrimoine, aux livres qu'on hérite de ses parents, à une politique d'achat qui est que les livres, ça s'offre, c'est des cadeaux et on se les gardera toute sa vie, et qui est, mais alors, comment dire, complètement contradictoire avec finalement le modèle de la lecture d'avant 1914 en Angleterre et aux États-Unis, et qui est qu'au contraire, que la lecture, eh bien, c'est pouvoir en permanence, dans un lieu public, ouvert au public, eh bien, amener la nouveauté éditoriale et tous les livres, c'est-à-dire tous ces livres qui laisseront pas de traces dans l'histoire parce qu'ils seront finalement désuets au bout de 10 ans, mais qui sont bien utiles pour la vie quotidienne et qui sont des livres où on parle de la géographie, où on parle des poissons, où on parle des maladies, où on parle... Et moi, c'était une de mes surprises en allant dans les public libraries américaines, c'est de voir ces panneaux entiers de livres d'usage, si vous voulez, qui sont sur comment faire telle chose, que savoir de, comment élever des animaux, s'occuper de ces animaux domestiques, les lapins, les poissons rouges, les oiseaux, les chats, les chiens, les singes, les serpents, les hamsters, tout ce que vous voudrez, occupaient un panneau entier. Il y avait au moins, je ne sais pas, 2000 livres là-dessus. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je ne voulais pas y croire.
Une petite anecdote là qui va tout à fait dans ce sens et qui nous sort un peu de la bibliothèque, mais qui montre bien cette opposition entre des modalités de lecture différentes. C'est, vous connaissez les éditions Bayard Press qui font une série de journaux d'hebdomadaires ou de mensuels pour enfants, mais qui sont en fait des livres de lecture déguisés en presse périodique. Et Bayard Press a voulu s'implanter aux États-Unis. Ils ont démarré, mais ce qui est très très extraordinaire, c'est que c'est un mensuel qui est réservé à une classe extrêmement réduite de la société, d'adultes universitaires qui offrent à leurs enfants
ce produit étrange,
ce produit absolument effarant français, aux États-Unis,
typiquement français,
Frenchy, oui, qui est
chic, donc.
Un livre dans lequel il y a des histoires à lire pour des enfants. Alors je crois qu'on pourrait ajouter à ce que disait Anne-Marie à l'instant que ce qui est aussi très caractéristique d'une position, moi, j'irais un peu de l'Europe catholique, hein, et qui est que, finalement, la lecture s'est réservée à l'enfance et à l'adolescence. Hein, il n'y a pas de raison que ça continue après. Et ces pays catholiques croient à la formation initiale et pas du tout à la formation continue. Parce que la formation initiale chrétienne, catholique, effectivement...
Ou plus tard républicaine laïque, mais
plus
finalement...
Tard, c'est la même. C'est, la, hein, oui, ça, c'est quelque chose qui se passe dans la durée du catéchisme. Une fois qu'on a fait son catéchisme, c'est terminé. On a son ciel pour l'éternité. Complètement différent en milieu protestant et dans les milieux qui ont été marqués par le puritanisme protestant. Nouvelle-Angleterre, Hollande, pays scandinaves, partie importante de l'Angleterre, où effectivement, là, vous le savez, il faut chercher toute sa vie si on est prédestiné ou pas. Puis au XVIIIe siècle, on relit indéfiniment la Bible. Il y a un très beau livre qui a été fait par un collègue anglais sur la lecture de la Bible dans les milieux puritains anglais au XVIIIe siècle, où une femme avoue avoir lu en entier 8 fois la Bible dans son existence. Elle n'a fait que ça, c'est le seul livre qu'elle ait lu tout au long de sa vie. Mais ça représente quand même des heures et des heures de lecture pour des milieux très populaires, dans lesquels on lit quand même relativement lentement, et selon des modalités qui sont en plus des modalités de la lecture religieuse. Donc je crois qu'on a bien des oppositions, et quand on travaille avec nos collègues italiens et espagnols, qui maintenant se mettent un peu comme nous à travailler sur la lecture, la bibliothèque, etc., on est très frappé d'avoir effectivement une France qui est... un peu une zone frontière en Europe.
C'est ça. Donc en fait, ce qu'il faudrait s'émerveiller, c'est pas qu'on lise si peu en France, mais que par rapport au pays catholique, on lise tant.
Voilà. qui est vraiment une zone de l'entre-deux européen, comme ça, avec beaucoup de caractéristiques qui la situent dans l'Europe du
Heureusement
Sud.
Heureusement qu'on a eu l'école laïque.
Mais aussi des caractéristiques qui la situent dans l'Europe du Nord.
Dites, madame, que sont devenues les bibliothèques princières sous l'Ancien Régime? Est-ce qu'elles sont toutes allées à la en grande partie à la Bibliothèque nationale?
Bah écoutez, il y a eu les sous la Révolution en plusieurs temps, et la plupart des collections donc saisies nobles et puis saisies des biens de l'Église,
chef de district.
Voilà, les ouvrages ont été bonne partie attribués à la Bibliothèque nationale, mais aussi justement les grandes collections des bibliothèques municipales,
une par département.
C'est le décret de 1803 qui va vraiment structurer un peu l'affectation de ces fonds, et on peut dire c'est presque le décret de naissance, enfin on ne peut pas dire naissance parce qu'il y en avait, mais des bibliothèques municipales.
Les collections rassemblées sont très importantes, hein, parce qu'on rassemble les collections de toutes les congrégations religieuses
et celles de
tous les émigrés. Donc en gros, la plupart des bibliothèques de ce pays. Mmh. Alors on les stocke dans les chefs-lieux qui ne sont pas encore les départements, c'est les districts hein, au départ, et puis ensuite dans les départements. Alors là, il y a à peu près, on considère qu'il doit y avoir à peu près un bon tiers de pertes, sinon la moitié selon les départements, ce qui fait qu'il y a eu un commerce libre d'occasion pendant la restauration extraordinaire. Hein. Les grandes collections des bibliophiles du 19e siècle se sont constituées à très peu de frais chez les bouquinistes sur les stocks qui ont été pillés.
Avant la création de l'instruction publique, tous les gens de Paris savaient lire.
Ah oui, notre collègue Daniel Roche, qui a fait un très beau livre sur l'histoire culturelle de Paris, arrive à partir des pointages qu'il fait à cette conclusion, c'est que à Paris, avant la Révolution, tous les domestiques savent lire, tous les petits métiers savent lire, ils lisent de tout. Alors il y a une énorme circulation de livres dans Paris. On republie dans des collections pas chères, c'est-à-dire des collections de colportage. Vous savez, on a beaucoup cru que le colportage était un colportage rural. Mais sous l'Ancien Régime, le colportage est urbain. Les colporteurs sont en ville, ils sont sur les ponts souvent, ils ont des hottes pleines de livres, ils l'écrivent. Et là, on trouve sous forme de petits livrets, qu'on appelle des livrets de la bibliothèque bleue, parce qu'ils sont recouverts de papier bleu, on trouve des rééditions d'un peu tout et n'importe quoi, y compris de livres qui, par ailleurs, ont été imprimés à l'intention de personnes cultivées. Hein, c'est très très large. Et alors, bien entendu, la France qui ne lit pas, c'est la France rurale. Hein, mais la France urbaine... La France du Nord est alphabétisée dès le début du XVIIIe siècle dans les villes, et la France du Sud tout de suite après la Révolution dans les milieux urbains. Alors dans les milieux ruraux, il faudra attendre effectivement le Second Empire à peu près pour que les taux d'alphabétisation montent suffisamment, et l'alphabétisation est à peu près totale à la guerre de 14, puisqu'on a l'habitude de considérer qu'à la guerre de 14, moins de 5% de la population française est analphabète. Donc vous voyez, c'est une alphabétisation rurale retardée, avec un bon siècle de retard. Mais la ville lit dès le XVIIIe siècle. Hein, et la ville fréquente dès le XVIIIe siècle des lieux identiques à ceux-ci, hein, qui sont des cabinets de lecture, où on loue des livres. Hein, et ce qui prouve cette demande très forte de livres à Paris, en particulier, ou dans les grandes villes de province, c'est comme le livre est cher. Encore jusqu'au début du XIXe siècle, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas inventé les nouveaux papiers faits de paille et de fibres végétales, eh bien le livre est cher, donc on le loue. On ne l'emprunte pas dans une bibliothèque, on va le louer. Vous voyez, la tradition française, c'est le cabinet de lecture, lieu où on va non pas acheter, mais louer le livre pour quelques heures,
et ensuite
on le ramène. Hein. La lecture est très présente en ville.
Et à la remise des prix aussi aux enfants, je trouve que le livre est toujours présent en France.
Alors ça, il faut attendre beaucoup plus tard. Vous avez du livre comme ça, c'est la paroisse et l'école.
C'est ça, oui, c'est vrai.
Où effectivement, dès le XIXe siècle, vous avez du livre qui est offert aux enfants avec des bibliothèques. Mmh. Hein, des petites bibliothèques paroissiales, une petite avance des protestants sur les catholiques, là aussi, mais elles existent. Et puis, bien sûr, des bibliothèques scolaires qui arrivent un peu plus tard, à partir du Second Empire. Le livre y est présent, oui, mais c'est un livre très particulier, puisque c'est un livre destiné justement à récompenser.
Nous n'avons presque pas parlé de ce que sont devenues les bibliothèques scolaires au XXe siècle. Ouais. Et effectivement, il y avait une tentative très importante pendant la seconde moitié du XIXe siècle du côté des bibliothèques scolaires. Et le XXe siècle va mettre extrêmement longtemps avant de reprendre cette tradition, puisque ces bibliothèques scolaires ont eu une aventure importante, et en même temps, comme toute bibliothèque, et plus elle est petite, plus ce problème est intense, si elle n'est pas régulièrement approvisionnée et entretenue, devient vite une espèce de coquille vide. Et on estime, je ne sais plus, dans les années 20, il y a plusieurs dizaines de milliers de bibliothèques scolaires encore en France, mais plus vraiment entretenues.
Il y a à peu près 33 000 communes. Hein.
Communes.
Donc il y a, en gros, au moins une bibliothèque par commune, puisqu'il y a des communes où il y a plusieurs écoles. Mais l'idée du 19e siècle, je précise juste ce point, l'idée du 19e siècle, c'est que comme on ne peut pas, on n'a pas encore l'idée du bibliobus pour alimenter la campagne, donc comme on ne peut pas faire des bibliothèques dans toutes les villes, les petites bourgades de campagne, on va utiliser le seul coin où l'État peut avoir un œil.
L'école.
Et l'idée, c'est non pas de faire des bibliothèques pour les enfants dans les écoles, mais de faire des bibliothèques pour les adultes dans les écoles.
Ça marche un temps et puis ça échoue. Enfin, j'étais quand même aussi destiné aux jeunes.
Aussi.
Et puis, ce qui est quand même frappant, alors là, c'est une question, je me retournerai avec facilité vers mes collègues pédagogues, puisqu'on interrogeait les modèles de lecture tout à l'heure, mais on peut aussi, évidemment, interroger les modèles d'enseignement, puisqu'il va falloir attendre, on peut dire, malgré, à part quelques tentatives, vraiment, il n'y a rien de sérieux avant le milieu des années 70. Là, vous voyez, quand je vous disais c'est dans tous les sens, eh bien, une espèce de renaissance, encore, on peut le dire sans sévérité, largement insuffisante de l'organisation des bibliothèques scolaires, mais enfin qui s'est quand même accélérée depuis quelque temps. D'abord modérée dans les années 70 et puis plus forte, avec des signes forts maintenant de constitution de profession, d'organisation de collection. En gros, pendant tout le siècle, jusqu'au milieu des années 70, il n'y a pas vraiment de tentative. Alors est-ce que ça aussi, ça n'interroge pas bien sûr des modèles d'enseignement et de rapport au livre proposé par le professeur. On évoquait les autres pays tout à l'heure. Je discutais lors que j'ai fait ce livre sur les bibliothèques en Europe. Bon, les collègues grecs, à part toutes les raisons de développement économique problématiques, disaient de toute façon, il n'y a que la parole du professeur qui est valorisée en Grèce, et il n'y a qu'une seule méthode, c'est l'apprentissage par cœur. Donc, les bibliothèques ne peuvent pas se développer, elles n'intéressent personne, et personne n'y croit. Dans l'absence de propositions de bibliothèques scolaires pendant tout le siècle, il y a sans doute une pratique pédagogique qui ne favorise pas la recherche personnelle des élèves.
Disons qu'il y a peut-être deux choses. D'une part, je reviens à mon idée des classiques, quand on regarde les choix d'achat de livres, il n'y a pas d'idée que le fond peut vieillir. Parce que si le fond vieillit, ça veut dire qu'on a acheté des livres à la mode, ça veut dire qu'on a mal choisi ces livres. Ce qu'on doit acheter, finalement, c'est des livres éternels. Les bons livres, Corneille, Molière, ça vieillira jamais. Alors du coup, dans la littérature enfantine, on va tout le temps tomber sur Dickens, et puis sur quelques autres. Alors ça, c'est un premier point. Alors, et l'idée qu'il faudrait que les enfants lisent ce que leurs parents ont lu, c'est aussi une grande idée qui serait finalement ce qui a été bon pour une génération. Il faut bien que ça se parce que c'est ça aussi qui permettra aux parents de parler des lectures avec leurs enfants. Alors ça, c'est le premier point qui est un modèle, qui est effectivement un modèle très restrictif du côté des lectures. Alors après, on dit peut-être ce qu'il faudrait simplement, c'est on va rééditer la Comtesse de Ségur dans la bibliothèque rose après l'avoir été dans les beaux livres rouges, etc. Parce que faut renouveler l'aspect matériel du livre, mais le texte lui-même doit rester intangible. Alors puis l'autre raison, c'est que quand vous regardez ce qui se produit commercialement dans l'espace public, vous voyez bien que les livres sont épouvantablement mal écrits, sont épouvantablement grossiers, racontent des histoires, sont écrits dans un français abominable, et par ailleurs, plein de fautes d'orthographe, certainement, et en plus, présentent des modèles, si vous voulez, qui sont moralement très contestables, c'est quand même pas avec les pieds nickelés.
Avec des guillemets.
Voilà. Elle abandonne. Mais vous trouvez un discours des enseignants qui est un discours extraordinairement critique et violent, en disant en plus, c'est bien normal que des commerçants cherchent du profit commercial, mais justement l'école n'a pas à chercher le profit commercial, elle doit avoir un vrai souci d'éducation. Alors vous voyez comment ces deux discours se rejoignent pour finalement fermer un petit peu le champ du lisible à l'intérieur de l'école. Alors après, la troisième chose, c'est que les instituteurs qui vivent au contact des familles de milieux populaires et des enfants de milieux populaires savent très bien que le livre de la lecture autonome est rarissime. Si bien que, finalement, la bibliothèque devient une bibliothèque, je dirais, pour les futures élites des milieux populaires. C'est-à-dire qu'on présente dans l'école la bibliothèque que pourront lire les enfants en grande réussite scolaire, mais qui trouveront à l'école la bibliothèque qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient été des enfants de milieux bien dotés. Et c'est pas une bibliothèque faite pour inciter tous les enfants à lire, c'est une bibliothèque pour servir à ceux dont on pense qu'ils vont finalement monter dans la République grâce au diplôme et qui sont une petite minorité. Pour les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans les années 30, on a l'idée de faire des lectures suivies en classe et on va demander à toute une série d'auteurs, Ernest Perrochon, Vildrac, etc., d'écrire des livres de lecture en lecture suivie que les maîtres, les maîtresses liront, mais déjà depuis 1880, avec le Tour de la France pour les enfants, c'était déjà ça. Et on a bien l'idée que c'est bien impossible que des enfants de ces milieux-là puissent lire un livre tout seuls. Pour qu'ils le lisent, il faut que le maître le leur lise en classe et qu'on le lise tous ensemble en suivant. On voit bien comment la perspective, je dirais, élitaire, finalement, est bloquée un petit peu de tous les côtés.
On a la même chose au collège. C'est pas seulement vrai pour l'école, c'est vrai aussi pour le collège. Le collège est un lieu où la bibliothèque reste, même aujourd'hui encore, relativement enclavée. Et lorsque vous discutez avec les documentalistes qui, remarquez-le, ne s'appellent pas des bibliothécaires dans les collèges, s'appellent les documentalistes. Lorsqu'on discute avec les documentalistes, beaucoup d'entre eux vous disent qu'ils ont énormément de mal, elles vous disent, parce qu'elles sont beaucoup de femmes, qu'elles ont énormément de mal à entretenir des relations avec les professeurs, y compris avec les professeurs de français. Et qu'il y a bien un décalage fort entre ce qui se fait dans la classe de français au collège et ce qui pourrait se faire dans la bibliothèque, si bien que la bibliothèque devient un peu ce lieu, quand il est animé par quelqu'un qui a une forte volonté,
un semi-foyer des élèves,
marginal, ce lieu où on fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire ailleurs, des choses extraordinaires, mais n'est pas lié. Et une de nos collègues a fait récemment, Daniel Manès a fait récemment une enquête sur les lectures utilisés par les professeurs dans les classes du collège. Et on a été complètement sidérés parce que vous savez que après 68, les textes officiels du ministère de l'Éducation nationale ont entériné la révolution culturelle de 68 et ont libéré les lectures au collège. C'est-à-dire il n'y a plus dans les textes officiels du collège ni d'interdit ni de livres recommandés. On peut lire toute la bonne littérature. Eh bien, la bonne littérature. Eh bien, lorsqu'on interroge les maîtres sur ce qu'ils font lire réellement, les professeurs de français, sur ce qu'ils font lire réellement dans leur classe, on est absolument sidérés. Parce qu'ils sont d'un classicisme absolu. Ce qui fonctionne, c'est le XVIIe siècle. Les lectures du collège, c'est d'abord prioritairement le XVIIe siècle, et ensuite le XIXe siècle. Et puis quelques livres contemporains, enfin du XXe siècle, mais la littérature de jeunesse, par exemple, ne passe absolument pas au collège. C'est-à-dire cette littérature vivante qui est la littérature qui est... Mais XVIIe siècle, assurément, ça tient bien. Et on l'avait remarqué avec Anne-Marie quand on avait travaillé sur le discours sur la lecture, il y a un problème de lecture dans l'école. C'est que la lecture française, la façon dont les Français ont inventé la lecture scolaire... au début du siècle, ils travaillent toujours avec la même, implique que pour que la lecture soit un exercice scolaire, il faut que ce soit obligatoirement une lecture difficile. Parce que si c'est une lecture facile, il n'y a rien à faire.
On n'a pas besoin du maître.
Donc on n'a pas besoin du maître, du professeur, donc le professeur ne sert à rien. Tandis que si c'est une lecture difficile, et Gustave Lançon, qui est l'inventeur de l'explication de texte, hein, la lecture expliquée, Gustave Lançon précise bien que si le texte n'est pas difficile, et en particulier si la langue du texte n'est pas difficile, eh bien, il n'y a pas possibilité de faire une explication.
Les politiques de prix menées sur le livre que subissent aussi les bibliothèques en France, un prix très élevé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du livre en France est pas cher. Hein, c'est-à-dire quand on compare le prix du livre avec les autres pays d'Europe, par exemple l'Italie c'est à peu près le double, l'Allemagne c'est 15% à peu près de plus.
Royaume-Uni et États-Unis, il y a la grande différence entre les poches et les livres liés. Alors il y a un écart.
Le livre français n'est pas cher. Il ne faut pas croire les discours de la FNAC.
Mais toujours trop cher quand on ne veut pas lire, quoi.
Voilà. Par exemple, on a monté une mesure au ministère de l'Éducation nationale qui devrait permettre en 3 ans d'équiper chaque école primaire d'une bibliothèque, hein, avec une aide de l'État. Dans un premier temps, l'Éducation nationale a eu votre réflexe. On a distribué de l'argent aux enseignants, aux directeurs d'école, et on les a laissés faire. Alors effectivement, ils sont allés à la FNAC, ils sont allés chez les grossistes, etc., où ils ont eu 20-30% de rabais, donc ils ont acheté avec la même somme 20-30% de livres de plus. Seulement le problème, c'est que en France, il y a aussi des libraires. Et si tout le monde fait comme ça, donc nous avons discuté avec le ministère de la Culture, puisqu'à cette époque, le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale n'étaient pas encore réunis, et nous avons convenu qu'on réattribuerait cette somme avec une obligation d'achat chez le libraire, de façon à
Non, c'est terrible, parce que ça veut dire moins de livres.
Moins de livres, alors, mais
du point de vue de la consommation.
Mais on fait vivre peut-être quelques années de plus un libraire de quartier, un libraire de petite ville, peut-être même un libraire rural, donc il en existe encore quelques-uns. Hein. Et c'est, je crois, quelque chose de très important dans la culture française du livre. Hein. On retombe bien sur cette dualité française, le livre du libraire, le livre de la bibliothèque. Il faut savoir qu'il y a toute une série de pays, je pense là aux pays scandinaves, dans lesquels tout livre qui n'est pas acheté par une bibliothèque est un livre qui ne pourra pas sortir chez un éditeur. Hein, c'est-à-dire que la bibliothèque, du coup,
c'est bien pour ça
a un
que
pouvoir
la crise
de censure
actuelle
définitif.
Ah, oui. En même temps, elle a fait vivre l'édition, la recherche, etc. Et c'est bien pour ça que la crise actuelle des bibliothèques dans ces pays-là
est catastrophique.
En tout cas, touche énormément l'édition.
Les acheteurs, finalement, c'est les services publics.
Parce que, notamment, pour tout ce qui est publication de recherche, entre guillemets, d'ouvrages universitaires, disons, puis les acheteurs, c'était les bibliothèques.
Je reviendrai volontiers sur